Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Bonjour Nilton.
Hola, comment ça va?
Très bien, merci. Je voulais commencer un petit prologue rapide de mes cours. Je voulais partager une conversation privée qu'on a eue il y a quelques mois entre toi, Alec et moi. Il y a quelques mois.
Oh, tu veux vraiment aller là?
Oui. Alors, où un certain Alec, oui. Où je pense qu'il avait aussi dit plus bon sur Twitter, mais un certain Alec me dit, quoi, il a dit quoi, Marco Fabian, c'est 10 fois meilleur que Xavier Tider. Donc, je vais juste régler ce sujet-là. Il a déjà débuté, l'Inter c'est mexicain, il est bon, mais il a tendance à rater des pénalties. Quoi, il a eu 2 pénalties ou 3, il rate les 3. Et alors que Tider, il fait tout à Montréal, il est trop fort, il a la meilleure coupe de cheveux, c'est un meilleur joueur. Puis voilà, juste comme disent les Anglais, the proof is in the pudding. Donc voilà, Alec et tes conneries, tu faut arrêter. Hein. Ton Marco Fabian là, c'est bien, puis Phil il gagne, mais il rate des pénalties, puis voilà quoi, c'est une grosse merde. Donc voilà, je veux juste un petit message à Alec Fantano.
Ça c'est ton prologue ça?
Oui si tu veux, c'est mon rant. C'est dimanche, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Non, à part ça, ça va bien?
Ouais, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue
au. Trop emmerdé pendant le match.
C'est super. Je m'amuse plus maintenant qu'au prologue du 6EPP en ce moment. Coco match, pardon. Question Twitter. Est-ce que le prologue 6EPP est plus excitant que le match nul entre l'Impact et New York City FC? Question Twitter. Répondez.
Ça dépend des fois, ça dépend si on a du temps pour un long prologue ou si c'est pour un court prologue, ça dépend s'il s'est passé d'autres choses dans la semaine, avant ou après le match.
Non, c'est
cette
vrai.
Cette fois-ci, ça a été plus excitant après le match.
Après le match. Est-ce qu'il y a du drama dont on doit parler cette semaine pour aujourd'hui ou non?
Drama, non. Le vélo, tout s'est réglé à l'interne. On nous avait promis du croustillant, finalement, il ne s'est rien passé. Tout a été contrôlé.
Tout l'installé l'avait en famille, dans la buanderie Coin Pineuf et Ontario, c'est bon.
Ouais, il y a eu un petit sursaut sur l'histoire de Rémi Garde à Lyon.
Ah oui, mini-drama. C'est du mini-drama, juste assez pour qu'on se dise, finalement, est-ce que...
Finalement, tu sais, il y a ce qu'on lit et ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on lit, c'est...
C'est une chose.
Tout le monde se justifie finalement l'info sur Garde était valide ou quoi que ce soit, ou peu importe. J'ai aucune idée si elle est valide ou pas.
Est-ce que quelqu'un a tagué Nick Arcadio sur la dernière formation pour qu'il se parle ou non?
Sinon, quand t'entends l'audio, c'est une petite phrase de rien du tout dans une émission de 30 minutes où le gars que je connais pas beaucoup...
Il est connu, c'est un directeur radio sportif connu en France, là, je pense.
OK, je le connais pas, désolé. Mais il a juste une petite phrase comme ça, comme quoi Rémi Garde est peut-être dans les tuyaux, tout ça, blablabla. Dans le fond, pas grand-chose là, à ajouter à l'histoire. Ça fait une petite vague de 12 heures. Finalement, il n'y a rien de neuf, mais c'est pas grave. Les gens roulent un peu là-dessus.
C'est quand même intéressant qu'un gars qui connaît probablement la MLS, ça n'intéresse pas tant que ça.
Pas du tout.
Il se dit, Rémi Garde, est-ce qu'il a vraiment pensé à lui depuis qu'il s'est fait dégager d'Aston Villa? Et là, soudainement, il mentionne son nom dans une émission de haute auditoire, je présume. Et il mentionne le nom de Rémi Garde. Quelques semaines après qu'Arcadio mentionne en exclusivité que Lyon a vœu Rémi Garde. Et ensuite, Jean-Michel Aulas confirme à côté de son coach qu'il ne va pas renouveler son coach en ce moment, Bruno Genesio. À un moment, quand 1 plus 1 est égal à 55, on se dit, c'est peut-être Rémi Garde ne finirait pas la saison avec l'Impact.
Bah, je sais pas.
Est-ce que c'est anecdotique quand il s'appelle Joël Batz, c'est entraîneur assistant? Quelque chose qu'il était déjà non officiellement l'an dernier dans tous les cas. Est-ce que c'est quelque chose de fou à penser?
Je connais pas assez la situation de Lyon pour commenter là, la valeur de cette rumeur-là, mais d'un œil externe, quand je vois un peu la culture qui existe dans ce club-là, une culture assez récente, parce qu'avant c'était le club fort de la France depuis que le Qatar s'est emparé du PSG, c'est autrement. Je sais qu'il y a eu des rumeurs dans ce sens-là, mais ça serait tellement une suite logique à ce club et à la façon de fonctionner de Aulas, de se retrouver avec un coach comme José Mourinho. Ce serait une situation parfaite pour lui, pour José Mourinho, qui aime se présenter comme la victime, qui aime se présenter comme celui qui va abattre le plus gros, celui qui a tout contre lui, mais qui va réussir. Mm. Tu sais, c'est un fit tellement, même trop parfait, sauf peut-être le bras de fer qui va faire. Tu sais, à moins que ça soit, à moins que Aulas et Mourinho deviennent les meilleurs potes au monde, là, ça risque de sauter, mais mm-hmm. je vois ce scénario tellement se dessiner en France, là. Tu sais, c'est l'autre championnat qui reste à Mourinho. Un retour de Rémi Garde, ça...
Je vais être honnête avec toi, même si c'est logique, mais il y a une certaine logique par rapport à ça, dans la réalité lyonnaise, ça n'arrivera pas. Je te nomme les derniers coachs là, de l'Olympique lyonnais, que tu as besoin de savoir. Jacques Santini, Paul Le Guen, Gérard Houllier, Alain Perrin, Claude Puel, Rémi Garde, Hubert Fournier, Brunet Genesio. Il va prendre des gars de Ligue 1 ou des gars du club. Et surtout qu'ils sont en bourse. Je dis pas que tu as tort, juste que tu... Ton idée est intéressante, je l'aime bien, mais juste pour dire, depuis qu'il est en bourse, je pense pas que Aulas va commencer à débourser 10 millions d'euros pour Mourinho, pour qu'il pour comme ça là par année, en plus tout ce qu'il va demander en termes de transfert et de salaire de joueurs. Je pense que c'est impossible pour Lyon de survivre comme ça, mais c'est une option intéressante. Peut-être qu'il doit briser un peu le cycle des coachs Ligue 1 qui marche bien, parce qu'ils ont quand même gagné beaucoup avec. Ils ont été champions avec différents coachs. Et voilà, c'est intéressant ce que ça va donner par rapport à ça. Mais oui, il y a un mini-drame, peut-être Rémi Garde, peut-être. Ou peut-être pas. Ça, c'est une affaire à suivre. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler du match? Est-ce qu'on peut faire autre chose ou...
Éventuellement, oui. Sinon, ta semaine Netflix ressemblait à quoi?
J'ai fait plus de YouTube que du Netflix cette semaine. J'ai pas encore pris le temps de finir la série Losers. Fred...
Quoi que tu t'es avancé en fin de semaine?
Oui, un peu. Oui.
Moi, j'ai suivi ton conseil. Là. J'ai écouté dernièrement Afterlife.
Oui, tu l'as...
Oi.
Tu l'avais pas fini la dernière fois?
Non, j'avais pas commencé. Moi, ce que j'avais écouté, c'était son show.
Ah, son stand-up. Mon Dieu. Ouais.
Là, j'ai commencé à écouter Afterlife. C'est lourd, hein?
C'est intense.
C'est pas fait pour tout le monde.
C'est fait pour Nilton.
Ouais, malheureusement. Hein.
Malheureusement, le positivisme georgien de Nilton. Mais oui, c'est un très bon show. Ricky Gervais, c'est un grand comédien, un excellent acteur dans ce qu'il fait, puis il crée tous ses shows, donc il est vraiment fort. Mais je voulais remercier Late. Pourquoi j'ai du mal à dire son nom Twitter? Fred Jean-François. Mm-hmm. Late Ted Fred. Je sais pas, j'ai du mal à dire son nom Twitter, qui est d'accord avec moi que Losers, c'est du bonbon. Donc Losers, n'hésitez pas d'embarquer Nilton. À moins que tu as déjà commencé à embarquer, je m'en rappelle plus.
Non, j'ai pas commencé.
Donc, essaye ça. Donc, j'essaie toujours d'éviter de parler de l'impact. Mais...
Non, je pense que là, on n'a plus le choix. Il faut aller vers le triomphe au zéro.
Ouais. Est-ce qu'on fait un rant durant la partie podcast, là, la vraie partie sur tous les ex-stars européens qui sont finis, qui arrivent en MLS, qui ne sont pas finis, qui ne sont pas finis? Est-ce qu'on fait une liste?
Non, on se garde ça pour plus tard.
Pour plus tard. Allez, on y va. Dans 3, dans 1, dans 2. On recommence. On y va dans 3. Dans 2, dans 1.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piri-Piri, communément appelé le CCPP, le podcast du duo le plus épicé du foot du CAN Football Club. Sofiane avec vous. Et avec moi, la partie épicée Piri-Piri du duo, c'est Nilton George. Salut Nilton.
Salut Sofiane.
Et voilà, salut Nilton.
Ça ressemble. Mon intro est aussi pauvre que le collectif offensif.
Exactement.
Une touche, perdu le ballon, on passe à l'autre.
Même mon énergie, c'est la même énergie qu'un match à 13h dans le stade de baseball. C'est assez déprimant. On est là pour parler de l'impact sur Machine un partout face au New York City FC. Et on va parler de ça, de vos questions. Et on va évidemment parler de ce qui nous tente aussi. Mais je veux d'abord remercier la Force du Malte, ce sponsor du Cannes Football Club, qui nous sponsorise depuis l'an dernier, notamment le CCPP. Vous pouvez les écouter, aller les suivre à laforgedumalte.com, trouver-les sur les réseaux sociaux, La Force du Malte. Et comme Nita m'a indiqué, ils sont sur une carte de bière qui disent où est-ce que vous pouvez acheter La Force du Malte. Ils sont notamment pas loin de mon travail sur Côte des Neiges, donc je vais aller les vérifier et prendre des photos Instagram pour faire ça cool. Et je veux dire aussi remercier Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs à monter de niveau leur expérience de podcasting. Donc tu peux héberger ton podcast, tu peux distribuer ton podcast, tu peux monétiser ton podcast avec Spreaker.com, passe au prochain niveau. Et c'est vraiment une excellente plateforme qui nous aide beaucoup, qui a beaucoup aidé le CANFC pour recréer une plateforme multi-podcast vraiment de haut niveau. Et si c'était pas pour Spreaker, on aurait eu du mal à le faire. Donc tout simplement, en quelques clics, Spreaker.com, et votre podcast va aller au niveau supérieur. C'est comme un recrutement d'été. Boum, c'est pas cher, tu payes par année ou par mois, et puis t'es prêt à plonger dans le monde des podcasts, surtout que maintenant, avec les multi-podcasts qui sortent sur l'Impact et la MLS au Québec et à Montréal, si toi aussi tu veux te joindre au fun, Spreaker.com, dis-leur que tu connais Sofiane, ils vont pas savoir qui je suis, mais mentionne mon nom quand même, et puis amuse-toi avec eux. Mais plus important, laforgedumalte.com, c'est nos amis de Trois-Rivières, local, supporter local, et super important de les aider parce que voilà, ça fait passer le mot, puis le bouche à oreille, c'est super important. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je veux dire quelque chose d'autre. Supporter qui? En tout cas, on va s'en rappeler après. Mais voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Ah oui, si vous voulez supporter les CANFC et communément le CCPP, patreon.com/CANFootballClub, vous êtes facilement 1000 à nous écouter. Du moins, les stats qu'on peut voir officiellement, vous êtes 1000 à chaque épisode facilement, si c'est pas plus. Il y a deux semaines, vous étiez 1500. Donc, si 1500 personnes donnent chacun 1$ par mois à la plateforme du CANFC, ça nous donne 1500$ par mois qu'on peut dépenser pour développer la plateforme, avoir un meilleur site web, avoir des meilleurs équipements.
Le char de l'année.
Le char de l'année. On va clairement s'acheter une voiture, une CANFC mobile.
Comme dirait Joey Saputo, si vous voulez de la qualité, achetez. Donnez-nous de l'argent.
Donnez de l'argent, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes 1500 à les écouter, 1$ chacun, puis on a un business. Donc n'hésitez pas, patreon.com/CANFootballClub. Évidemment, un petit lien va, tous les liens vont dans la description de l'émission. Un client pour vous acheter des cafés au CCPP directement, buymeacoffee.com/CCPP. Mais tous les liens vont être dans les descriptions de l'émission. Nilton, New York City FC. Yep. 1. Impact. New York City FC 0, Montréal 0. Un match qu'on veut tous oublier, qui a été un peu épicé avec le carton rouge de Maximiliano Urruti. Donc, rapidement, au niveau de l'alignement, Johnson dans les buts, Tinnerholm, Ibiaga, Chano, Matarita dans un 4-2-3-1, Ring, Sands devant la défense, Medina, Mitrita, Lewis, juste derrière Castellanos. Pour que l'impact, le 4-3-3, Lovis, Raitala, Diallo, Sania devant Bush, Taider, Piatazira, Novilo Oroti, et puis Nilton, tu peux dire le nom de l'ailier nigérien parce que j'ai du mal.
Sofir Taider.
Mais le nigérien, c'est comment on dit? Oyongo, Okoyongo.
Ça fait deux semaines que tu l'appelles Oyongo.
C'est ça, t'as neutre. Donc,
Okongo.
Ok, il y a Taider, Piatazira, Novilo Oroti et Okongo.
Okongo.
Parfait. Donc voilà. Parmi ça, j'aurai 15 000 commentaires sur Twitter qui vont critiquer ma prononciation, mais j'ai pas pris le temps de faire des recherches. Si vous remarquez le niveau de mon Patreon, hein, plus de Patreon, je vais faire plus de temps de rechercher, hein, aidez-moi. Non, mais blague à part, donc deux équipes avec des formations similaires. J'ai pas trop suivi le mercato de New York City FC, donc je savais qu'ils avaient pris ces joueurs-là, mais j'ai aucune idée qui jouait quoi, qui faisait quoi. Donc c'était une chance pour moi de les découvrir aussi. Donc c'était super intéressant. Mais le match était vraiment ennuyant, soporifique. Un peu comme le baseball que tu veux ramener toi et Filosa. Donc vous emmerdez avec ça.
Non, mais au baseball, arrête. quand tu vas dans un stade de baseball, tu sais que tu vas avoir des temps morts. Tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir aller te chercher un petit bretzel, une petite crème à glace. Au foot, tu penses avoir 45 minutes d'intensité, hein, de surprise. Mmh. Là, non, il aurait fallu probablement aller se chercher un bretzel, prendre la ligne la plus longue, parce que... Mmh. Oh,
mais est-ce anormal qu'on se dise qu'un match de foot soit un peu ennuyant? Moi, je trouve que les matchs de foot ressemblent beaucoup plus à ce que l'Impact New York City FC ont donné qu'autre chose.
Je peux comprendre que ce soit ennuyant. Clairement, la tactique, le but visé de Rémy Garde, c'était de... Il n'y avait pas de pressing. Hein, les joueurs étaient complètement dans un bloc très, très bas. C'était pas excitant à voir, mais ce qui était ennuyant, c'était la qualité du jeu. Une fois que l'Impact avait le ballon, ils étaient incapables d'aligner 2-3 passes consécutives. Là. Il y avait tellement peu de solutions à l'attaque. C'était des joueurs qui étaient pris tout seuls, entourés de 3-4 adversaires. Mm-hmm. Tu vois tellement... C'est là qu'on se rend compte que l'Impact de Montréal, sans Nacho Piatti, là, c'est absolument rien. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Nacho Piatti... C'est un génie de transformer cette équipe en quelque chose d'intéressant.
Regarde, dans la définition de MVP, tu mets la photo de Piatti, puis c'est fini. MVP, c'est lui le joueur le plus qui a le plus de valeur, le plus important pour son équipe. S'il n'est pas là, Montréal, c'est nul. Même avec Piatti, l'Impact a déjà du mal. On ne va pas faire semblant.
Oui,
avec Piatti, je me dis, le jeu de l'Impact est pauvre. Donc déjà, alors sans lui... Et puis que personne ne...
J'essaie de me poser comme question, est-ce que l'équipe est si pauvre? Est-ce que l'équipe est rendue pauvre collectivement à cause de Nacho Piatti? Parce qu'ils sont tellement habitués d'attendre après Nacho, parce que c'est pas un joueur collectif, c'est un joueur qui va utiliser les autres pour réussir lui-même. Hein? C'est rien de... Il n'y a pas de setup. Il n'y a pas de grande préparation offensive. T'sais, autant cette équipe est structurée défensivement, on voit que l'équipe, au niveau collectif, a un objectif sans le ballon. Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est clair et net et planifié. Une fois qu'ils ont le ballon, il n'y a rien qui est planifié. Là. Ce n'est que un individualisme pur. On l'a vu, le Novillo sur le côté, il ne savait pas quoi faire avec. Ce qui est... Orgie, mm-hmm. au-delà de courir vers l'avant, au-delà de faire des appels de balles, il ne sait pas quoi faire avec. Urruti, au lieu de faire des appels mm-hmm. vers le milieu, une fois qu'il y a le ballon, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a personne qui sait, à part quelques flashs.
De Saphir Taylor.
Mais même à ça, Saphir va avoir un flash pour une passe décisive. Mais pas nécessairement pour un grand jeu collectif, parce qu'il n'y a pas de mouvement collectif offensif.
Ben oui, mais ça, on le sait. Mais
il faut arrêter de dire « on le sait » et tout ça, mais si le jeu est si pauvre collectivement au niveau offensif, est-ce que ça va au-delà de la qualité des joueurs?
Oui, moi, il y a deux choses. De un, tu fais jouer, même avec Piatti, t'as quand même deux joueurs sur trois qui se connaissent pas. Urruti, Origi. Ils se connaissent pas, puis Piatti ne connaît aucun des deux. Même si Urruti et Piatti ont peut-être une connexion télépathique, métaphysique, parce qu'ils sont argentins, puis qu'ils boivent du maté, donc ça passe.
C'est plus du wishful thinking que d'autres choses.
Mais disons que je donne ce facteur, ils parlent argentin, qui n'est pas une langue, mais c'est marrant quand même de le dire. Ils boivent du maté, puis par magie, ils se connaissent bien. Donc, ça s'est réglé, de façon hypothétique. Il y a ça. Maintenant, dans ce match-là, t'ajoutes Novillo. Novillo, Urruti, Orgie. Est-ce qu'on s'attend vraiment que ça ait marché de façon systématique? Surtout avec les déboires qu'a Urruti en ce moment, que tu as prédit, et qu'on va parler dans pas longtemps, je pense. Donc, il y a ça là. De deux, moi je trouve le talent, Nilton, on dit qu'il manque la troisième milieu de terrain. C'est pas compliqué. Si tu ramènes un joueur beaucoup plus offensif, tu dis à Taylor de reculer un peu. Dans le sens, fais l'essuie-glace 8 box-to-box, fais-le, on va te demander beaucoup. Piet, tu te défends comme un malade. La défense centrale, quand l'équipe est beaucoup plus offensive, il joue un peu plus haut, ben c'est mieux, c'est plus facile de faire le pressing sur le porteur du ballon, à moins que l'adversaire n'aura pas de faire de lancer des ballons derrière le dos pendant tout le match, mais après ça, tu t'ajustes, tu joues un peu plus bas. Mais c'est plus avec la qualité des joueurs que tu as.
Donc, oh, mais qui est responsable de la qualité des joueurs qu'on possède? Tu l'as dit, là, il nous manque quelqu'un à côté de Saphir Taider.
Il manque un très bon attaquant. Top attaquant. C'est pas compliqué. Il manque un attaquant d'épée. D'attaquant, de joueur. C'est pas compliqué. Il manque un Divayo, il manque un Wayne Rooney, il manque un Vela, il manque un Lodero, si vous voulez, au milieu de terrain. Il manque même un Jordan Lewis. Il manque un attaquant qui a de l'impact. Orodi, je pense qu'il va arriver à compenser un peu. J'ai encore un espoir, mais on va parler après. Mais c'est tout. Regarde là. Tu sais, on rit l'an dernier, puis il y a deux ans et cette année aussi, c'est l'année de transition, l'année de recommencement. Quand c'est la dernière année de Piatti qui commence à se faire vieux et puis là qui s'est blessé, c'est peut-être très grave. Tu vas chercher un ailier en prêt de Bologne en catastrophe. Novilo, on ne sait pas ce que ça vaut vraiment, mais ça se voit que c'est pas une supercherie, mais on attend encore. Oruti, ça fait peur, mais on sait qu'il y a un CV qui n'est pas dégueulasse. On se dit ok, mais ça fait quand même des points d'interrogation. Au milieu de terrain, Piatti défend, Azira, on sait ce qu'il peut donner, et Taider, il fait beaucoup trop. Même quand il est juste très offensif, je trouve que c'est quand même beaucoup. Malgré ça, il est excellent dans les coups francs, dire indirect et les corners. Donc en termes de qualité de ballon, c'est important ça. Tu prends tout ça ensemble, Nilton, c'est énervant. Mais là, je parle du résultat. Je ne dis pas comment. On ne va pas dire que c'est la faute des Saintes, c'est la faute à Garde, c'est la faute à tout le monde. Non, c'est la faute au club. Le club a mal fait son recrutement.
Moi, ce qui m'énerve, c'est le manque de critiques. Puis sans vouloir pointer qui que ce soit, là,
je veux des noms.
Le manque.
Je veux des tweets. Je veux des liens. Je veux des codes postaux. Codes postaux.
De façon générale, on donne un préjugé trop favorable aux décisions de cette équipe-là, et peu importe qui les prend. Quand on nous dit, sans trop savoir qui est vraiment ce Novilo, mais quand on essaie de nous faire croire que Silva, c'est pas une grosse perte et que Novilo, ça va être meilleur, sur quoi se passe-t-on à part le... Certaines personnes ont comme un besoin de devenir des relationnistes de ce club-là et ça m'énerve. Quand on nous dit qu'Oruti, c'est finalement l'avancement dont on a besoin, j'ai envie de crier parce que ce qu'on dit depuis un an,
ouais,
ce qu'on a besoin comme avancement, c'est un finisseur.
Ouais, un renard des surfaces.
Moi, je m'en fous qu'il ne participe nullement au collectif de l'équipe. Le plus grand besoin de cette équipe-là, c'est quelqu'un qui est devant, qui sait finir des actions. Je ne veux pas quelqu'un qui construise des actions parce que l'autre problème de cette équipe-là, c'est le milieu de terrain. Il manque quelqu'un pour construire et ça ne devrait pas être l'avant-centre. Cette équipe n'est pas conçue pour avoir un Giroud. Arrêtez de me sortir l'exemple de l'équipe de France quand sur les côtés, il y a des tonnes de buteurs.
Dembélé, comment? Mbappé. On parle de quoi là? Comparons comparable, s'il vous plaît.
Exactement. Si j'avais Piatti à gauche puis j'avais Quaresma à droite, tu peux mettre l'avancante que tu veux, je m'en fous.
Ça va marcher.
Ça va fonctionner. Mais quand on me dit et on me répète que ça devient un mantra et quasiment un serment de prêtre pour me faire avaler que Oruti, c'est finalement l'avancante qu'on a besoin, moi, ça m'énerve. Et je pensais qu'il allait réussir mieux que ça. Je suis déçu, mais je suis un peu content de voir Oruti avoir un début de saison si catastrophique pour mettre l'évidence du profil qu'est Oruti. Le gars a deux tirs cadrés dans la saison. Si Jackson Hamel avait était obligé de jouer ces matchs-là, il avait eu les mêmes statistiques, il serait la risée sur Twitter, il serait partout blâmé pour le manque d'efficacité. Parce qu'on sait, pendant un mois de temps, on nous a sorti là, un espèce de roman à l'eau de rose en disant « C'est un Argentin, il va avoir de la chimie, il court bien. » Tant mieux.
Mieux
qu'il soit suspendu parce qu'on va enfin avoir des minutes. Je ne dis pas que Jackson, c'est la solution, mais vous allez voir, il n'y a pas de grande différence entre les deux, à part peut-être 800 000 $.
Et bon, en termes d'effort, je trouve que Oruti, il met Jackson Hamel dans sa poche en termes d'effort. Je dis tout de suite, en termes d'ébauche d'énergie efficace, en termes d'effort.
Oui, mais c'est parce que toi, tu parles de l'effort pour aller chercher le ballon.
Oui,
est-ce que tu le vois en train de faire des efforts pour marquer un but? Il est où dans les actions finales?
Ok, on arrête là. On va répondre à la question après sur Oruti, là. Mais Je suis d'accord, ce serait Spindleton, ok. Ok, j'aimerais finir en 45 minutes l'émission, s'il vous plaît. Mais juste pour dire, c'est que pour revenir à ton rant sur les mantras qu'on essaie de nous vendre, c'est que je réponds un peu au tweet de Benoît Tourangeau qui dit que ce qu'on pose dans le vélo et qu'est-ce qu'on va sembler de Silva. C'est beaucoup plus ça qui me dérange, c'est que moi, ça me dérange. Chacun a son analyse, chacun a son opinion. T'as le droit d'avoir raison, t'as le droit d'avoir tort. Je pense que la plupart des gens, tout le monde, on trouve tout le temps un juste, un juste milieu pour dire que oui, ben c'est plus ou moins ça, ça marche bien, etc. Moi, je trouve qu'on a vraiment mis de côté Silva assez rapidement et trop facilement par rapport à son impact sur le jeu. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on dit que ah, il est pas si important que ça, il a mal fait. Je trouve qu'il a bien fait. Et surtout qu'il a bien fait en même temps que lorsque l'équipe a très bien joué en deuxième partie de saison. Là, je me répète, là, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, c'est le love fest par rapport à Novilo qui me dérange pas. C'est nouveau, c'est joli, c'est shiny. Tu veux que ça marche, tu fais confiance à Rémi Garde, etc. Mais en termes de CV, après un passage plus ou moins intéressant en Ligue 2 en France qui aurait pu mieux marcher, finalement, qu'est-ce qu'il a prouvé ? Pas grand chose, mais ça ne dérange pas. La MLS, c'est la ligue de la rédemption. Tu es là pour te refaire une deuxième vie, une deuxième carrière pour certains et d'autres, même des joueurs d'EP, gros joueurs européens qui sont finis. Ils viennent en MLS, puis ils font un peu revivre leur légende. Tu dis, ah, regarde, c'est une ligue de retraités, mais au moins ils jouent. Regardez, ça joue bien. Il y a des belles célébrations, il y a des beaux buts. Les stades sont beaux, c'est rempli. C'est à la limite, il y a ça à la limite sur lequel tu peux te reposer. Et je suis d'accord avec toi. C'est juste, et c'est pourquoi on a appelé le premier épisode la positive attitude. Il y a quelques semaines, parce que c'était beaucoup trop positif par rapport à ça. Je pense que quand on lisait Nick et Dave Lévesque en Floride, c'est plus par rapport au positivisme du groupe qui était beaucoup plus serein et content que l'an dernier, par rapport au staff, et le staff et le groupe s'aiment beaucoup plus cette année que l'an dernier, sont beaucoup plus solidaires, mais quand on rentre dans les détails du jeu, de l'attaquant, il manque un milieu de terrain, etc., il manque de profondeur, mais ça on le savait, là. C'est pas comme si l'impact a comblé beaucoup de lacunes, mais assez pour survivre. Maintenant, est-ce que survivre, ça veut dire on va faire avec cette équipe jusqu'à septembre, ou est-ce qu'on va attendre juillet pour faire un gros coup? Moi, je dis bonne chance. Mais on est d'accord sur ça, Nilton. Moi, tu sais, pour tout ce que t'as dit, tu t'es creusé un foxhole. Moi, je suis avec toi, je continue à creuser avec toi, puis on va s'acharner dans les tranchées sur ce qu'on dit. Je suis d'accord avec toi. Et même sur Roti, je suis d'accord avec toi. Hein. Je dis c'est pas le profil parfait, mais je dis par rapport à mon cousin. C'est mieux. L'équipe. Non, mais c'est ça. Mais l'équipe est mieux. L'équipe est un peu mieux cette année. Parce que les gens se connaissent. Mankuzu a eu des chances de marquer. Roti va en avoir. C'est obligé.
Donc, je te l'ai dit. Je pensais que.
C'est ça. Donc, j'ai fait
sincèrement, je pensais qu'il allait avoir un meilleur début de saison. Ça, malgré tout.
Moi aussi. Mais ça ne change pas que ton point était valide. Et que le fait qu'ils disent c'est le avançant, c'est un avançant correct.
On est d'accord qu'on était probablement les deux seuls sceptiques du marché montréalais là, concernant
oui, disons quand t'es pas vendu, peut dire que c'est la solution, c'est une solution, c'est une meilleure solution. Est-ce que c'était la solution? Je ne sais pas.
Trop souvent là.
Mais ça dépend de Piatti aussi. Ça dépend de Piatti. C'est Piatti, il est blessé 3 mois, ils font quoi l'impact? Ils font quoi? Donc c'est plus par rapport à ça. Là, on n'a posé aucune question.
Non.
Officiellement là, mais juste pour dire. Et c'est, je veux pas, on n'est pas négatif là, on fait juste un constat, surtout que c'est un match nul à l'extérieur, c'est très bien. On voit l'affiche de l'impact. Tu me dis c'est excellent. Je dis 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul.
Bon, on l'avait dit, en début de saison, si on va chercher avant le premier match à domicile 6-7 points, c'est génial.
C'est parfait.
Oui, on se retrouve dans la position voulue, désirée, rêvée en ce début de saison.
Et fais-moi confiance, cette équipe va beaucoup mieux jouer à la maison. Beaucoup mieux. Je ne dis pas qu'ils vont gagner. Ils vont beaucoup mieux jouer. Ça, pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est évident. C'est évident parce qu'on l'a vu à chaque année, avec des joueurs différents. À la maison, ils sont beaucoup plus... Il y a plus de humph. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas trop stressé par rapport à ça. Moi, je suis plus intéressé par le jeu, par le standard, par un style. Parce que je suis un peu en désamour avec mon club, la Juve, parce que on gagne, mais il n'y a pas de jeu nécessairement, il n'y a pas de... C'est avec l'argent qu'on dépense, pourquoi on ne joue pas comme le Barça, à la façon Juve? pourquoi Tottenham joue un jeu plus beau que la Juve. Donc je pose la même, pourquoi la Juve joue pas un jeu aussi beau que Tottenham ou un jeu plus. Voilà, donc je pose ces questions avec la Juve, avec l'Impact, je me pose la même chose. Tu sais, quand est-ce qu'on va avoir une sorte de base où on se dit, ben, tu mets n'importe qui, ça va marcher. Avec le modèle SKC. Quand est-ce qu'on va arriver, quand est-ce qu'on va arriver un minimum sportivement à ça?
Les gens en place n'ont jamais eu une idée claire sur leur façon de jouer offensif.
Ça n'a jamais été clair, notre façon de jouer tout court.
Oui, mais défensivement, au moins là, c'est clair. On le voit, là. C'est pas une équipe qui va presser haut, c'est une équipe qui subit. Il y a un Piet qui fait 50% du travail défensif à lui tout seul. C'est clair et net ce qu'ils font. Il y a Azira qui bouge des trous, Tider qui fait le travail. Ouais. Les latéraux sont hyper prudents. Et ces huit joueurs-là avec le gardien, c'est clair là, ce qu'ils font quand ils n'ont pas le ballon.
Tout à fait.
Une fois qu'on gagne le ballon, il n'y a rien. Il n'y a absolument aucun plan.
Non, il y a. Du moins, moi, je pense qu'il y a un plan, juste qu'il n'y a pas assez de talent pour accélérer les choses. Quand on a vu le Roumain, là, Mitrita. C'est ça?
Mm-hmm. Ouais.
C'est un joueur qui est plus dans l'axe. Donc, dès qu'il demandait le ballon, puis il est capable d'accélérer avec le ballon au pied, on voit une différence. Ça s'appelle du talent. C'est pas compliqué. T'as le talent, t'as pas le talent. C'est comme si je commençais à te comparer, Lamar Nichols avec Justin Knapp. La différence, c'est le talent. Justin Knapp, il va éliminer le joueur à chaque fois, quasiment. Il va faire un sang dans la surface. Ça s'appelle le talent. C'est plus par rapport à faire la différence. Parce qu'à la base, en tant que collectif Newton, je pense qu'à la fin, c'est quand même des duels un contre un. Par exemple, on voit l'évolution de Lovic. Lovic, là, il fait beaucoup de percussions et de dribbles intéressants pour se débarrasser de son adversaire. Il est beaucoup plus confiant. Tu vois son évolution, hein, Lovic, on le voit. Il est meilleur. Quand il veut monter, quand il veut se débarrasser d'un joueur, il est très confiant dans ce qu'il fait. On le voit.
Mais cette équipe-là n'est pas en mesure de se créer du jeu posé parce que, de toute façon, dès qu'ils gagnent le ballon, ils n'ont qu'un jeu en tête. Là. C'est une contre-attaque rapide.
Ou en transition, oui. Ça marche.
Oui, mais quand ça ne fonctionne pas, ça fait des matchs comme ça où ils ont 30% de possession du ballon. Quand il n'y a pas un avant-centre qui est percutant dans la boîte, ben ça fait en sorte qu'on touche trois ballons et c'est perdu. Ça devient rapidement quelque chose d'assez ennuyant. C'est très, très haché comme jeu. Puis un Lovitz ne pourra pas faire ça parce que si on fait juste balancer le ballon en avant sur Orgie qui essaye de battre un contre un son latéral, Lovitz n'aura jamais l'occasion de faire quoi que ce soit. À moins de gagner un ballon dans le dernier tiers, mais on ne fait même pas ce pressing-là. Donc, ça devient un jeu là tellement ennuyant. C'est un spectacle, là. C'est dur à vendre un foot comme ça, là.
Non, c'est vrai. Bonne chance à Kevin Gilmore pour vendre le stade, là, puis loges VIP.
Il est mieux de présenter le classement tant que le classement est de notre côté. Mais au niveau jeu, c'est pauvre.
C'est ça. Et ça, c'est aussi par rapport à nos attentes. Je parle pour moi, tu parles pour toi. Je pense qu'on a une pensée unique entre nous deux, là, on ne cherche pas le même cerveau, mais je pense qu'on voit les choses de la même façon. On se dit, c'est bien. On disait la même chose quand il y avait Drogba. Les gars, ça joue vite, tu vas vers l'avant, tu déglingues, puis tu gagnes. Et ça, c'est correct. C'est juste que là, avec le temps qu'ils ont, je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas capables de recruter genre un minimum pour combler des trous? Pourquoi, genre, là, ils vont chercher. C'est quoi la nouvelle, ton info? Ils vont chercher un ailier? Pas cher?
Oui, exactement.
Un autre?
On va pas chercher un titulaire. On est en mode, il reste tant d'espace dans le budget, donc on va chercher ce qu'on peut aller chercher. C'est des solutions de profondeur.
Oui, on prépare une blessure de Piatti peut-être?
Ouais, je pense pas que ce soit lié. C'est okay. Vraiment, on espère trouver...
Une perle rare.
On essaie de frapper comme on a frappé avec Piet, c'est-à-dire quelque chose autour de 100 000 $ puis... qui nous en donne de trois fois plus pour compenser pour tous ceux qu'on a payés sept fois trop le meur.
C'est fou. Non, mais c'est ça. On ne veut pas déprimer les gens. Là, puis on ne veut pas baisser le rythme, un peu comme le match contre New York City FC. Et en plus, le match ne m'intéresse pas tant que ça, là, dans le sens, c'est plus c'est plus un symptôme d'autre chose, mais à la limite, même New York, ils ne veulent pas perdre. Puis ouais. L'Impact joue contre DC United en semaine, puis après ils jouent à la maison. Donc ils se disent, est-ce qu'on a vraiment envie de se fatiguer, tu sais, l'Impact joue quand? Ils jouent le 11. Mardi, ouais, le 9. Excuse-moi, mardi c'est demain déjà, là. C'est quasiment demain. Donc voilà, ils veulent vraiment peut-être se reposer, faire une belle rotation, mais ça change pas que à un moment donné, c'est quand les excuses vont s'arrêter par rapport au club. Là, pour moi, Sigard ou son staff ou des gens qui pensent comme lui ne restent pas pour 3, 4, 5 ans avec Vassili Krimendi, c'est peut-être un directeur sportif à temps plein ou un directeur technique ou whatever assistant. Ça, j'ai dit, est-ce qu'il y a espoir qu'on voit un football intéressant dans une ligue qui n'a pas de relégation? Dans une ligue où tu as combien d'équipes dans l'Est? 12 équipes dans l'Est. Tu as 7 équipes qui font les séries. Sur 12. 7. Nilton, 7. Sur 12 font les séries. Et en plus, le nouveau format des séries est favorable à l'Impact. Il n'y a pas de match aller-retour.
Souvent, on parle de l'avenir de Rémi Garde, tout ça. Là. Honnêtement, là, Montréal, là, la MLS, c'est pas mal comme carrière pour Rémi Garde. Il pourrait rester ici très longtemps. Il est bien payé. Le niveau de
si c'était l'Impact, je prolongerai là. Puis...
Non, mais c'est gagnant-gagnant pour les deux. Là. Autant pour Rémi Garde, je veux dire...
Moi, honnêtement, j'irai pas en Europe chez lui là. Je pense que s'il y va, c'est qu'il va se payer plein d'argent, puis le projet va l'intéresser, puis ça va lui manquer. Puis les entraîneurs, c'est comme des carriéristes là. Ils cherchent à améliorer leur carrière.
Si c'est pas pour partir dans les tops en D1, pourquoi il irait, par exemple, entraîner des gens? Et aussi bien rester à Montréal et dans MLS.
Je suis d'accord, mais il va être considéré dans les tops de Ligue 1. Il va dans une liste.
Éventuellement, oui.
Longlist, shortlist, mais il va dans une liste, clairement.
Oui, mais oui, éventuellement. Mais je veux dire, il ne va pas quitter Montréal et la MLS à tout prix, là.
Non, non.
C'est un très, très beau projet ici, là. Il y a une espèce de sérénité, autant sportive que personnelle. Pour lui, c'est gagnant. Rester. Il y a un contrôle pratiquement total sur le club, au-delà du budget, parce que c'est assez rare que de toute façon un entraîneur a un budget limité.
Exactement.
Il va avoir des contraintes partout dans n'importe quel club. Ici, c'est lui qui est directeur technique, qui est coach, qui est tout. C'est une des figures les plus importantes du club dans ce marché montréalais.
Il parle bien, il est sympathique.
Les journalistes ne sont pas difficiles envers lui.
Il aime faire des blagues, il lâche des bonnes côtes, il rentre dedans quand il faut, il est gentil quand il ne faut pas. Tu sais, c'est le candidat parfait. Il faut le garder à long terme. Je trouve que l'Impact ne trouvera pas un meilleur coach que lui.
Non, non. Et lui, personnellement, de saison en saison, il va apprendre peut-être à moins sous-estimer cette ligue, à nous sortir un peu moins de Novillo et de Camacho. Éventuellement, j'ai hâte qu'il vienne remplir un de ces mandats qu'on a oublié, c'est-à-dire...
Arrête.
Sortir des gars de l'académie.
Je te coupe. Au montage, là, j'efface cette question-là. J'efface ça dans le montage.
Non,
là. J'en ai marre de ce mantra. Ça, c'est un mantra. Là. Ça, c'est,
je m'en fous.
C'est culte. C'est le culte. De, genre, on veut que les jeunes jouent par défaut. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Vous m'emmerdez avec ça.
On m'a présenté Rémi Garde avec des objectifs clairs, les plus évidents sportifs comme faire les playoffs.
Il a échoué. Gagner la Coupe MLS, il a échoué. Donc quoi? Il ne fait pas jouer les jeunes.
Et une des choses qu'on a sorties, c'était son pedigree de directeur de l'académie, etc., etc., et comment c'était important de sortir des gars de l'académie en donnant des exemples de gars qui avaient sorti.
Nilton, tu me triggers, là. Tu me triggers.
Non, mais il va falloir éventuellement que ce club-là sorte des solutions maison.
Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas mettre tout le poids sur Rémi Garde.
Non, mais c'est entre autres une de ses responsabilités.
Ben oui, tous les coachs ont comme responsabilité d'intégrer les jeunes. Même au Real Madrid, on leur dit d'intégrer les jeunes.
Non, mais...
Même au Real Madrid, on leur dit, mec, si on a des bons joueurs à la Castilla, est-ce que vous pouvez les intégrer? Heureusement, ils vont y penser. Heureusement.
Sofiane, quand tu vois ce qu'on a comme joueurs et des solutions qu'on est allé chercher à l'externe, est-ce que c'est un si gros upgrade par rapport à des gars qu'on aurait pu donner du temps de jeu?
Nilton, tu parles au gars qui dit ça depuis l'AFC Montréal. Je lui dis depuis toujours, pourquoi il y a des joueurs que vous payez MLS alors que vous prenez un jeune qui va jouer autant de minutes, mais au moins il aura l'expérience d'être sur un banc à MLS. Pourquoi ils font pas ça? Et ils l'ont pas fait. Et ça, c'est un truc, c'est un problème d'institution, de l'impact, et pas juste Rémi Garde. Je suis d'accord, c'est une de ses responsabilités objectives. Mais, s'il vous plaît, arrêtez la référence par rapport à l'Académie de Lyon. L'Académie de Lyon est une machine à produire des pros de niveau Ligue des Champions. OK? L'Académie de l'Olympique Lyonnais, ils produisent des top players.
Je compare avec les autres de
MLS. Mais ils me disent par rapport à l'expérience, oh, il a fait ça à Lyon. Mais t'as vu la structure qu'ils ont à Lyon? Ou qu'ils ont à Marseille, ou qu'ils ont à United. C'est une structure qui est gearée vers l'excellence. La cabine d'impact, ils viennent de 10 ans, même pas. Qu'est-ce qu'on va leur demander de produire des top joueurs? Excuse-moi de mon petit rant.
Non, c'est correct. Et je suis totalement en accord avec toi. Sauf que si on me remplit avec certaines phrases, il faut pas les oublier une fois qu'elles sont pas accomplies, ces phrases-là. Oui. Un peu comme au routier, en me disant c'est finalement le buteur qu'on avait besoin. Si on m'a rempli avec cette phrase-là, venez pas me critiquer quand je les retourne, ces phrases-là. Même chose pour Rémi Garde. Si on m'a rempli en disant que ça va être un excellent éducateur, formateur, blablabla, et un an après, c'est toujours pas arrivé, et il a eu du temps, il a eu des options, Et il l'a pas fait. Il est allé chercher à grands coups de salaire des solutions externes qui sont loin, mais très loin de prouver que c'était vraiment un upgrade par rapport à ce qu'on aurait pu avoir à la maison. Je le questionne.
Bon, je te rejoins sur ce point aussi. C'est juste que je le vois pas venir. Voyons les recrutements qu'ils font à chaque fois. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ils vont pas le faire. Ils vont juste le faire. Ben, ils ont fait avec Chouanière qu'il est bon, le petit, et il est avec le groupe. Puis, quand il se blesse pas, ils vont le faire jouer beaucoup plus. Moi, je pense que oui. Mais, ils doivent se dire, on a quand même besoin des joueurs plus d'expérience. Puis, ils ont la connexion avec Bologne, puis et lui, la connexion avec ses ex-Lyonnais. Donc, ça donne un sorte de mishmash de tout ça. Mais moi, je veux que Chouanière soit titulaire. Je veux qu'il joue, je veux qu'il gagne, je veux qu'il soit un top player, impact et MLS. Mais il faut que ça arrive. Puis, à un moment... Je sais pas, on peut pas forcer les choses, mais on est d'accord que si Novilo il vient de commencer, là, on va lui donner genre quelques matchs là avant de l'enterrer ou de le hisser vers les cieux des dieux du football, mais c'est vraiment moi je trouve que c'est important de prendre en compte que il y a une réalité de gagner tout de suite tout le temps. Qu'il faudra garder un équilibre avec le fait que la Ligue te donne le temps de développer les jeunes et de les faire jouer. Parce que ta seule punition, c'est peut-être de ne pas faire la série. Et si avoir un ou deux jeunes dans ton effectif qui sont pas si mauvais que ça et jouer des matchs intéressants font que tu ne fais pas les séries, je trouve que tu as d'autres problèmes que de faire jouer les jeunes, à mon humble avis. Je pense, Hilton. Voilà.
On essaie-tu maintenant les questions des gens avant que ça soit terminé?
Non, ça fait déjà 45 minutes. Là, on arrête. C'est fini. OK.
Antoine Baudin nous demande si l'Impact était chanceux de faire match nul.
Je trouve que c'est un bon match nul. Hein. Je pense que les deux équipes peuvent se dire oui, merci. Regarde, c'est un match à 13h. C'est un match à 13h. New York City FC, pensez tous au barbecue de la maison après le match. On est d'accord, c'est le 5 à 7, les cocktails. Manhattan, Tribeca, Brooklyn. Montréal, tout le monde pensait à prendre l'avion du samedi soir. Pour être à la maison à temps pour voir la famille, le dîner, le souper, le lounge, le bulletin noté. C'est un win-win. Avec un point, tout le monde est content. Tu prends l'avion à New York, les New Yorkais sont contents, ils font un 5 à 7. Et c'est parfait. Le football, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les joueurs sont contents.
Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est des huées en fin de match. Hein, c'était pas envers Montréal, mais c'était clairement avant New York, pour New York. Ce que j'ai aimé, ça a été probablement le premier match où Evan Bush a été significatif. Il nous a sauvés dès le début du match.
Il a été excellent. Evan Bush a été excellent.
Dans ce match-là, c'est...
Il n'est pas assez payé. On devrait... 30%.
Bon, pendant 30 secondes, je pensais que c'était sérieux.
Bush était excellent.
Sinon, autrement, New York, il y a eu beaucoup de possessions. Ça a été assez stérile. Il n'y a pas eu des tonnes d'occasions. En face, tu as eu Montréal avec quoi? 3 tirs cadrés? Peut-être moins cadré. Bref, il y a l'occasion à la toute fin qui...
Un tir cadré.
Voilà. Wow. Donc, mais, on est chanceux dans ce sens-là où Hein, marquer un but aurait été spectaculaire avec l'occasion de Diallo en fin de match. Donc, ouais, le match nul correspond pas mal.
Sur une passe de Safi Traidor. Mais juste pour dire, quand on voit New York City FC jouer, c'est un peu trompe-l'œil. OK? Est-ce que tu m'entends?
Oh oui.
Ouais. De loin, t'as l'impression de voir Manchester City, de loin. Au début, tu dis, ah, c'est les mêmes maillots, les mêmes couleurs. Hein, c'est peut-être Man City qui vient ici pour jouer un match amical. Ensuite, ils jouent de l'arrière comme Guardiola. Le gardien fait une passe au défenseur, ils font des petites passes. Après, le troisième passe-là, on voit que c'est pas Man City, on voit qu'il manque de talent. Mais en fait, ça ressemble à ce que tu sais, dans la Ligue de Garage, là où l'équipe est trop bien habillée, avec les uniformes tout jolis, avec les crampons tout neufs. En fait, ils sont pas bons. En fait, c'est ça, New York City. Dans ce match-là, New York City FC me donne l'impression que c'est cette équipe qui était trop bien habillée et qui jouait pas aussi, et qui était, leur jeu était beaucoup plus pauvre. Que leur équipement et leur swag.
Et Montréal, c'est l'équipe dont le meilleur joueur a annoncé par texto. Finalement, il ne pouvait pas venir. Il va travailler plus tard aujourd'hui. Et ça finit 0-0. On est 0-0.
Et l'arbitre est venu last minute.
Marc-André, il y en a plusieurs qui nous demandent ça aussi. Marc-André nous demande est-ce que Routy ne serait pas mieux en 10?
C'est quoi? En pensant, comment je regardais? J'ai regardé des highlights, puis j'avais vu un match un peu plus long. Je sais pas quelle équipe jouait un 4-2-3-1, là, mais j'ai dit. Et je suis pas un expert de formation, mais il y a un 4-2-3-1 où tu forces Orji vers l'avant, puis Orotich derrière lui, en mode formation template Twitter, là, pour montrer que c'est joli, mais que Orji puis Oroti, vraiment, s'interchangent de rôle dans l'axe, de façon systématique. Pour ensuite donner un peu plus. Ben, mon hypothèse, c'est que Piatti n'est pas blessé aussi, là, donc c'est un peu ça, dans ce 4-2-3-1. Puis que tu laisses Tider un peu électron libre, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Ou même à côté de Piatti, s'il le faut. Puis quand tu as Piatti qui percute, et Orji à droite, ou même Routy à droite, si vous voulez. Puis on interchange. On interchange avec Orji, ou même Tider qui vont plus haut, puis Azira avec Piatti. Tout en pensant à vraiment voir Routy et Orji combinés. De façon plus dans l'axe, tu vois. Parce que la force, là, pour marquer un but, là, même si t'as Drogba, même si t'as Divayo, même si t'as Frank Lampard, même si t'as Shevchenko, etc., la force pour marquer quand tu vas vers l'avant, c'est pas l'attaquant qui est tout seul dans la surface, c'est tes milieux de terrain qui montent, ton ailier qui coupe vers l'axe quand il y a un centre dans la surface. Pour marquer des buts, il faut que ça soit trop au cas dans la surface. C'est pas tout le temps des slaloms de Piatti, c'est pas tout le temps des coups francs de Vargas ou des corners marqués que l'impact, on dirait en corner, c'est trop difficile de marquer dernièrement. Mais tu vois, je veux dire, c'est quand dans le jeu ouvert, non, au contraire du jeu posé, t'as besoin d'avoir plus de gens dans la surface ou plus d'options quand tu attaques. Ouais. Et je pense que Orotti et Orji, j'espère les voir un peu plus combinés dans l'axe. Quoique Orji, il est très bien sur un côté parce qu'il y a une certaine percussion intéressante. Mais en même temps, il faut qu'il joue un peu plus vite, lève la tête un peu plus, mais il est jeune, entre guillemets, dans le sens en termes d'expérience. Et puis, pour un gars qui vient d'arriver, je trouve qu'il joue beaucoup mieux que des gars qui ont joué pendant 2-3 ans avec le club, en termes d'adaptabilité. Mais j'aimerais bien les voir jouer ensemble dans un rôle plus axial, tu sais, dans la surface.
Routy, en 10, le problème, c'est ce qui se retrouve derrière lui dans ces moments-là. Puis, je pense pas qu'on a l'effectif pour ça. T'sais, il nous faut pratiquement deux Tider derrière Orotti.
Ouais.
Tu peux pas t'empêcher d'avoir un Piet parce que c'est un élément clé dans la défense de l'Impact de Montréal. Puis on peut pas demander Piet d'être à droite de Tider. C'est un trop gros risque. À la limite, il faudrait un Orotti à la pointe d'un milieu de terrain en losange. Mais on l'a aussi, en faisant ça, on enlève la force de Piatti, parce que Piatti, il va se retrouver comme deuxième avant-centre. Est-ce que ça va être un espèce d'asymétrie vers la gauche? Ça devient hyper compliqué.
Et surtout qu'Orotti, je ne pense pas qu'il a le talent pour jouer milieu de terrain là aussi. Là. Je ne pense pas qu'il a le...
C'est exactement ce que
comme s'il va se dire, ah, je vais poser le ballon, lever la tête. Je ne sais pas s'il sait faire ça systématiquement. Là. Je ne pense pas.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ça devient tellement compliqué à redessiner un schéma pour mettre Orotti dans une position où de toute façon on est loin d'être sûr qu'il va exceller.
Ouais. Mais moi je suis beaucoup plus intéressé à voir Orotti et Orji combinés vers l'avant de façon systématique, qu'ils ne soient pas séparés par 20 mètres de largeur à chaque fois. Mais pour le moment, Orji joue voilà quoi, le côté droit est à lui. Je crois que Chouanière et Baïa compétitionnent de façon sérieuse avec son poste.
Ou le prochain, signé cette semaine.
Exactement. Donc c'est une bonne question là, mais dans tous les cas, il faut que l'Impact mette Orotti dans des conditions gagnantes. Ouais. Je dis pas que ils le font pas déjà, mais il faut. Je suis d'accord qu'Orotti...
Il faut arrêter d'espérer un grand changement au niveau du schéma tactique. Ce qu'on voit depuis le début de saison, ça risque d'être ça.
Non, c'est son pain et son beurre. 4-3-3, ça ne changera pas.
Donc, ces joueurs-là qui sont signés, ça va être ça. Teach Tournesol nous demande à quel point ce terrain merdique justifie-t-il le manque de créativité de l'Impact. Je pense pas que ça a aucun lien avec le terrain.
Non. L'Impact sont aussi mauvais avec ou sans ce terrain. En termes de créativité...
Le terrain ici, il était beau?
Il était super beau.
OK.
Ouais. Et il était beau aussi à Orlando, puis c'était très créatif, l'Impact. Donc.
Moi, ce que je trouve drôle concernant le terrain, j'ai vu un post de l'équipe de l'Impact de Montréal aujourd'hui, où la vidéo commence avec la tourbe là, qui décolle.
Ouais.
C'est pas gentil, l'Impact de Montréal, de rire des situations des autres équipes.
Surtout...
Pas sûr que la MLS va aimer ça, que Montréal fasse des petites vidéos qui attaquent la crédibilité. En tout cas, moi, je trouvais ça bizarre.
Mais bon, New York, on peut répondre par... nous, au moins, on sait comment peindre des lignes, mais bon, ils auraient pu le faire facilement. Mais regarde, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas trop. Je suis pas un très bon gestionnaire de communauté. Là. Moi, j'aime rire, mais tout seul. Mes mimes, ça fait rire moi et personne d'autre. Je les publie quand même. Donc, je suis pas tellement la référence pour répondre à ta question. Mais, on est d'accord que le terrain est dégueulasse pour jouer au football.
Oui.
C'est une honte. Ouais, c'est une honte. Et puis, si c'était pas New York City FC et puis le groupe Citizens à Abu Dhabi, là, Man City. La MLS n'aurait jamais accepté qu'un club joue dans un stade de baseball pendant 10 ans, en attendant qu'ils aient un stade. Puis ça met du temps pour que New York City FC ait un stade, puis c'est intéressant de suivre ça, mais on verra. Bonne chance à eux, mais soyons fiers de notre stade Saputo, Newton. Soyons fiers.
Je l'aime bien, notre stade. Steph nous demande, pour mardi en avant-centre, est-ce qu'on se retrouve avec Orgie ou Jackson Hammett?
Si Jackson Hammett ne joue pas, il ne jouera jamais. Il jouera jamais. Puis en termes d'ailier, Orgie, c'est l'ailier droit. Mais Jackson Hammett à la pointe, puis c'est fini.
C'est assez clair.
Il est reposé, il est bien. Il va faire des belles courses. Je pense qu'il a marqué 2 buts. Prédiction. Boom. 2 buts. Pourquoi? Tu penses que je blague?
Ok.
T'es tellement méchant.
Non, mais imagine, Jackson marque juste un but. Oui, oui, oui.
J'ai raison à moitié. Là. C'est déjà mieux, Newton.
Il est obligé de le refaire jouer. On se retrouve avec le... Il y a les fameux les débats de gardien de but comme Montréal aime tant. Là. On se retrouverait avec un débat d'avancement de Jackson Hammett avec son seul départ, boum, un but. Il est obligé de revenir avec?
Non.
Wow. Jackson Hammett marque un but à DC. On revient avec Orotti au match d'ouverture à la maison?
Oui.
Wow. Explique-moi.
C'est qui a une prolongation de contrat?
Non.
De 3 ans. C'est qui s'entraîne comme l'attaquant numéro 1 depuis le mois de février et qui joue exactement comme Rémi Garde veut qu'il joue à part marquer?
C'est Orotti, non? C'est qui a 2 tirs cadrés en 5 matchs, en 6 matchs? En...
C'est Orotti.
Si Jackson Hammel... T'es sérieux, là? Tu blagues pas, là? Si Jackson Hammel marque un but... Il débute pas le match à Montréal?
Je dis pas que je suis pas d'accord avec ta logique, mais je dis...
Je vais pas savoir Sofiane l'entraîneur, là. Je vais juste dire, toi, tu penses que Rémi Garde revient avec Orotti comme avant-centre si Jackson marque?
Oui. S'il marque et qu'il fait un match de malade, là, mais vraiment, c'est la réincarnation de Drogba sur DC United... Je me dis, peut-être, je dis, ouais, ok, il va jouer contre Columbus à Montréal. Mais s'il fait juste marquer un but, puis que qu'il est juste normal, mais bien, je pense que c'est Orotti qui va commencer à Montréal. C'est sûr, je suis pas mal sûr. Le fait que Jackson Hammett soit encore là, je suis encore étonné. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est encore là.
Parce que le club a pas voulu le libérer avec les conditions de libération qui existaient? Le club a par sa faute, a établi une certaine valeur à Jackson Hamel avec son traitement. Quand il était le temps de libérer, ben, ils se sont rendus compte que la valeur de Jackson Hamel, ben, hein, ça venait avec, avec son utilisation. Ils n'ont pas voulu le libérer sous ces conditions-là. Ben, ils l'ont gardé. Tout le monde est resté coloc par défaut.
Ben oui, et puis en allemand, ce qui m'embête avec les situations de joueurs comme Jackson Hamel, puis c'est un bon point Nilton, c'est que pense-y, OK? Pense-y. T'es un coach à MLS. T'es un directeur sportif. Tu cherches un attaquant, un deuxième attaquant. T'es un 4-4-2. Ou tu cherches un deuxième attaquant pour. Tu vas jouer la Ligue des Champions. Tu veux faire jouer un gars à 15 matchs. Tu as un jeune athlétique. Hein, qui a l'expérience un peu. Tu dis, Jackson Hamel. Tu checks ses stats 2016. Hey! Ou 2017. Hey! 7 buts, 8 buts. Il marque, je sais pas moi, son expected goal est excellent. Et vraiment, je dis, hey, il est bon. Après, tu checks 2018. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Pourquoi il ne joue pas? Il était blessé? Non, pas trop. Il demande aux gens pourquoi il ne jouait pas? Oh, on ne sait pas. OK. Donc, tout le monde est dans le concept « What have you done for me lately? » Ils disent « OK, 2017, c'est bien, mais 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Problème d'attitude? Ça ne marchait pas avec le coach? Le coach, c'est Rémi Garde. Pourquoi il ne fait pas se jouer? » Il jouait, ben, Mancuso jouait plus que lui.
C'est son message était clair à l'époque, c'était que il y avait deux éléments qui faisaient en sorte que tu étais titulaire ou pas. Il y avait l'entraînement, il fallait que tu me démontres lors de l'entraînement que tu gagnes ce poste-là.
Et il l'a pas fait.
Et que une fois sur le terrain, il fallait qu'il démontre qu'il avait une performance qui justifiait son utilisation lors de son utilisation.
Et surtout dans ce que Rémi Garde recherche. Parce que moi, ce que je vois, ce que Rémi Garde voit, c'est deux choses différentes. Puis heureusement, parce qu'il est payé pour ça. Et donc, je te rejoins.
Et donc, pour revenir avec Jackson, je sais que Rémi Garde aime beaucoup la nouvelle attitude de Jackson.
C'est quoi? Tout le monde a de l'attitude cette année, là. Vraiment, je comprends pas ce mot.
Je m'en fous. Ça vient de lui. Donc, à l'entraînement, il démontre une certaine valeur.
Ouais.
Bon. Son choix numéro un pour débuter la saison, c'est justifié. Parce que, comme tu as dit, il y a des histoires de contrat, ainsi de suite. C'est Routy qui est numéro un, Jackson est numéro deux. On se retrouve dans une situation où on est rendu à combien de matchs? 6 matchs?
Oui.
Après 6 matchs, ton avancante a 0 but. 2 tirs cadrés.
Pardon, 5 matchs.
0 but, 2 tirs cadrés. Suspendu pour un match. Jackson Hamel, parce qu'il a démontré qu'il pouvait être utilisé comme solution de rechange, il vient comme avancante, marque un but dans sa seule utilisation comme titulaire.
Tout à fait.
Tu reviens au match à la maison. Et là, tu vas dire à Jackson Hamel, sans rire, « Désolé, je reviens avec Urruti. » C'est quoi le message? Pas seulement à Jackson, mais à toute l'équipe. C'est impossible de faire ça. Si tu fais ça, tu n'as plus aucune crédibilité au niveau de certains joueurs. Là, sur le banc, il n'y a aucun joueur sur le banc qui dit « J'ai une chance, j'ai la même chance que n'importe qui. » Non, c'est clairement indiqué qu'il y a des joueurs qui ont des statuts, qui sont titulaires. À moins d'une catastrophe, je ne serai jamais utilisé. Je suis ici pour boucher un certain trou dans l'effectif et c'est tout.
Mais c'est ce qui est très normal dans certains cas. Et moi, je suis d'accord. Je ne dis pas que je veux que Jackson Hamel marque un triplé, marque un tour du chapeau, puis un triple, il ne joue pas contre Columbus. Là. Je ne dis pas ça. Je suis d'accord avec toi, Nilton. Mais tout ce que je dis, c'est que dans mon feeling, même si Rémi Garde est super pragmatique, je me dis, à la maison, Urruti, pourquoi il ne jouerait pas? Mais il a juste un carton rouge, c'est tout. C'est pas comme si... Mais c'est pas carton rouge. Peut-être Urruti n'aurait pas commencé à DC United. Imagine, on aurait le même débat. Urruti serait sur le banc contre DC et Jackson Hamel marque des buts.
Bon, mais...
Tu penses, et toi, tu aurais dit la même chose? Moi, je pense que j'aurais un doute que Urruti ne soit pas titulaire contre le week-end de Saputo. C'est mon humble avis. C'est mon
personnellement,
feeling.
Personnellement, je trouvais déjà que son utilisation frôlait un peu une espèce de fixation de Rémi Garde. Il est trop utilisé. Pour une fois, ce club-là Il n'y a pas beaucoup de situations dans le schéma tactique où le Rémy garde le loisir d'avoir une solution de rechange, à part en défensive.
Regarde, si Jackson Hamel...
Il ne l'a pas déjà fait. Je trouvais ça déjà bizarre. S'il procède de cette façon-là...
Bon, au moins, ça prouve une certaine constance dans ses choix, ou sa façon de visionner, de voir les choses. Et de deux, comparer les deux joueurs, et je sais que t'aimes pas ça, et je sais que tu vas commencer à... Je te vois déjà à rougir de haine et de rage, pardon. C'est en termes d'ébauche d'énergie, de pressing, d'activité physique dans le jeu. Oroti, il met Jackson Hamel dans sa poche. Quand on se rappelle comment Jackson Hamel joue, sachant pas que Jackson Hamel est très athlétique, qu'il peut faire ce que Oroti fait, mais je trouve qu'Oroti c'est une machine. Ce qu'il fait, c'est hallucinant. Il a trois poumons. Qui fait le pressing autant au début du match qu'à la 85e minute. Je trouve ça très impressionnant et je pense que Rémy Garde aime ça en lui. Oui, c'est un attaquant, il faut qu'il marque. Nilton, ça on le sait, là, c'est l'hypothèse. Là. C'est le prérequis de cette hypothèse-là. Mais à la fin, un être humain est subjectif, un entraîneur est un être humain, donc il y aura des opinions subjectives sur certains joueurs, surtout avec l'expérience qu'il y a eu avec Jackson Hamel l'an dernier. Et avec Edwards, et avec Oduro, bah, au moins Oduro, et avec. C'est qui d'autre qu'ils ont dégagé? Avec Vargas, avec. C'est ceux qui n'étaient pas proches du club, que le club voulait garder pour certaines valeurs, sont partis. Bye bye, ciao. Tout le monde a été dégagé, ceux qui n'étaient pas nécessaires et que l'impact pouvait avoir un certain retour. Ou pour au moins alléger la masse salariale, notamment avec Vargas durant l'autre saison. Donc c'est ça, mais moi j'ai reçu la mail. Je dis, man, après ces 7 buts-là, go, va ailleurs. Mais en même temps, il y a un bon contrat, il est bien payé, moi je comprends. Mais je te garantis de source sûre, les clubs MLS étaient intéressés par Jackson Hamel l'an dernier. Mais certains se posaient la question, et littéralement, quote d'un je sais pas si c'est assistant, mais il est dans un staff de technique d'un club, de la conférence de l'Ouest, qui m'a dit, on comprend pas pourquoi il jouait pas l'an dernier. Non, il jouait pas en 2018. On n'était pas sûr, donc ça nous a moins intéressés. Surtout, apprendre un joueur qui va prendre une place internationale dans mon club.
Oui, et à cause de cette utilisation quasi nulle.
Oui, et qui
le club, lui, a fixé sa valeur à Jackson Hamel à quelque chose de très, très, très bas. Et quand les autres clubs de la MLS ou en dehors de la MLS voulaient récupérer Jackson Hamel, ils étaient tellement étonnés par le peu de valeur en échange qui préférait le garder. Donc, ça devenait comme une spirale sans fin. Là. Tu peux pas demander à un club de donner 100 000, 200 000, 300 000 en transfert quand tu l'utilises pas du tout.
C'est ça.
Quand ton avant-centre, c'était un gars à la pré-retraite comme Mancuso. Qui fumait
des cigarettes. Il faut dire la vérité. Le gars, il fumait des cigarettes.
Et qui avait des passe-temps un peu bizarres. Et pendant ce temps-là, tu pouvais pas utiliser Jackson Hamel. Donc, demande pas. Tu sais, demande pas la lune pour Jackson Hamel. Si un club est intéressé, laisse-le aller là, pour absolument rien parce que de toute façon, tu l'utilisais pas. Dans des situations comme ça, ou encore, on est dans une situation totalement hypothétique, mais si Jackson Hamel fait un bon match, un but, et trois jours plus tard, tu reviens avec Oroti, ben là, tant pis, là, laisse-les partir quand il va avoir une occasion pour. Là. Puis trouve-toi un autre plan B avec un peu plus d'avenir, selon toi. Tu peux pas faire quelque chose et demander le contraire. Là. Moi, ce club-là, je le comprends pas. Sincèrement, je...
Prends un numéro et fais la ligne. fais la ligne aux toilettes.
Bon, il faut trouver d'autres questions parce que là, on s'enligne toujours sur les mêmes sujets.
Pourquoi tu penses qu'on s'enligne sur les mêmes sujets? Pense-y. On pose la question à tout le monde. Essayez de répondre à Twitter, entre vous, avec vos amis, tout ça dans le métro. Ne parlez pas trop tout seul, c'est pas nécessairement très sain. Dites-vous, pourquoi on se pose autant les mêmes questions avec ce club? Pourquoi? Parce qu'ils font les mêmes erreurs. C'est simple. Ils font la même chose.
Le pire, là, c'est pas qu'ils font tout le temps les mêmes erreurs, c'est qu'ils ignorent certaines erreurs.
Ils n'apprennent pas de leurs leçons? Ils n'apprennent pas les leçons des erreurs du passé?
Non, mais je veux dire, tantôt, en début de l'émission, on a parlé du manque de créativité au milieu de terrain. On le savait, l'année passée, on parlait de ça parce qu'il y avait Ken Kroliki qui était au milieu de terrain, puis on se disait, c'est inconcevable qu'au mois de mai, on soit pas en train d'aller chercher un milieu.
Milton, je peux faire un petit changement? Excuse-moi d'interrompre. Okay. Bon, à la place de créativité, est-ce qu'on peut utiliser le mot punch? Moi, je voudrais juste un peu plus de punch, un peu plus de hump, Est-ce que c'est trop demandé? Oublie créativité. Créativité, ça demande...
De jeu?
Budget. Ça demande du jeu. Ça demande un setup. Juste un peu plus de punch. Un peu plus d'impact. C'est tout ce que je demande.
Mais... Le problème, c'est qu'on on voit rien dans ce sens-là. Je veux dire, on est allé chercher quoi? On est allé chercher des ailiers. On n'a pas su se départir d'un surplus défensif.
Mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi on a décidé d'accumuler des défenseurs comme si on jouait au Monopoly. Ça, j'ai pas encore compris. Pourquoi accumuler autant? Il y a ça aussi. Personne n'a voulu me l'expliquer.
Je sais pas. Justement, il y a une question
Ce podcast, il concerne déprimant. Là, allez, on y va.
Justement, une question concernant les défenseurs centraux. On nous demande si à partir de maintenant, je ne retrouve plus son nom, on va voir Raitala en défense centrale jusqu'à la fin de la saison. Je pense que l'objectif, au départ, l'objectif, c'était une paire Raitala-Diallo. C'est des circonstances. Au niveau physique, le Raitala a eu des problèmes pendant le camp d'entraînement. Cabrera a fait le travail en début d'année. Et comme d'habitude, il y a eu quelques...
Bon, on l'avait dit, c'est comme l'an dernier. La pièce angulaire ne change jamais. Fanny 2018, Diallo 2019. Puis ça, entre Camacho, Cabrera et Raitala de savoir qui va gagner le tiki gagnant cette semaine. Raitala a un avantage, je trouve, en termes de calme et d'expérience. Puis les questions, elles venaient de LP Bartuniotis.
Oui,
il y avait aussi Anthony Bellil qui demandait qu'est-ce que ça prend pour Raitala devenir un partant indiscutable aux yeux de Rémi Garde. Liende aussi. Saphir Pogba qui parle de renouvellement de Raitala pour développer les automatismes avec Diallo. Donc, tout ça. Puis, à la limite, t'as des gens de se dire on a besoin de profondeur en défense centrale, mais pour moi, Raitala, c'est une couche au-dessus pour le moment en termes de confiance et de calme. Maintenant, en termes de performance, pendant 34 matchs, c'est une autre histoire. Mon humble avis.
Étienne Pouliot nous demande concernant Novillo. Personnellement, je suis un peu déçu du manque de vitesse de Novillo, même si ça demeure un premier départ en MLS. Avez-vous la même impression?
On est déçu parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à lui. Parce qu'on aime l'idée de son profil. On aime l'idée qu'il supposément va percuter, qu'il va rentrer dedans, qu'il aime couper vers l'axe, qu'il a un instinct offensif, qu'il est rapide, qu'il est dribbleur, un ailier. On aime cette idée-là. Donc on se dit, ben, on veut que ça marche. Et je vais lui donner tout le temps qu'il a besoin, donc il a besoin que je trouve qu'il a le CV expérience en tant que jeune joueur académicien de Lyon pour me dire, je pense qu'il va réussir. Je pense que, ou du moins je veux qu'il réussisse. Donc je pense par rapport à ça, il faut lui donner du temps.
Je suis d'accord avec toi qu'il est un peu tôt. Hein, on l'a pas vu dans des conditions aussi idéales. Il se retrouvait sans Nacho Piatti, il se retrouvait à gauche. Je sais pas si c'est sa position. On l'a vu souvent très très limité avec son pied gauche. Il était un peu perdu, mais bon, c'est que des petits flashs dans des situations difficiles. Mais il doit, pour l'instant, là, il m'a pas encore convaincu que c'était une solution nettement meilleure que Silva. Pour l'instant, là, j'ai rien vu de mieux de Silva, mais il est tôt.
Même avant que je connaisse le nom de Novillo qui soit un signe avec l'impact, la perte de Silva, je trouvais ça vraiment risqué, quoi qu'il arrive.
Moi, Silva, ce que j'aimais, c'est qu'il apportait une dimension tellement différente à ce club-là.
Ah oui.
C'est pas vrai que, tu sais, oui, on l'a présenté comme le penchant droit de Nacho, c'est impossible.
Ce qui est faux, c'est n'importe quoi.
C'est impossible.
Je sais pas qui a dit ça, mais je dis merde. Donc tu me dis, si c'est le penchant droit de Piatti, c'est qu'il dribble comme Piatti, c'est même pas un dribbleur. C'est un ailier qui percute.
Tout à fait.
Je suis plus capable.
Ma crainte, là, c'est que le recrutement de l'Impact de Montréal, c'est un recrutement par défaut. On va chercher les joueurs qui veulent et qu'on peut signer sans nécessairement à penser c'est quoi notre objectif dans les profils de joueurs.
À la limite, Novillo, c'est clair ce qu'on recherche de lui. C'est talent offensif côté droit. Moi, tu me dis que Novillo est beaucoup plus un penchant de Piatti que Silva, entre guillemets. Hein. J'exagère un peu là, mais il est beaucoup plus proche de Piatti, entre guillemets, que Silva. Donc moi, je dis que je veux qu'il réussisse. Voilà, il dit que ses problèmes d'attitude de jeune sont partis, je le crois, parce qu'il est beaucoup plus mature, puis bonne chance. Go for it, bro. Je joue. Mais je veux qu'il joue des matchs. Lui, c'est un gars que je veux voir jouer. Mais encore une fois, Orji vient brouiller un peu l'écart parce que Orji est venu rapidement s'intégrer puis être assez performant directement. Et je mets entre guillemets assez performant.
Une petite dernière question avant que ta fille te demande d'arrêter elle-même l'émission.
GF Sénescal, sa fille Tider est indispensable. Discuss. Oh. Non, vas-y, une autre question.
Une petite question, là. Docteur Foot qui nous envoie toujours des petites pas faciles. Concerne Rémi Garde. Mettons qu'il quitte. Il prend tout son staff avec lui, sauf peut-être Nancy.
Pauvre lui.
On le remplace par qui?
Marc Dos Santos.
Aïe, aïe, aïe. Il faudrait pas qu'il quitte en plein milieu de saison. Mais en même temps, j'ose croire que l'Impact de Montréal est prêt à cette éventualité-là.
Moi, je pense que c'est Joel Batts qui est le prochain coach de l'Impact de Montréal.
Tu penses qu'il reste à Montréal, lui, si jamais...
Oui, oui, oui. Il a pas...
C'est sérieux?
Il a pas rempli ça. Il a pas quitté Lyon, même si peut-être il savait qu'il devait partir à New York avec son âge que pour devenir assistant à Montréal et revenir directement à Lyon ou suivre Garde. Il se peut qu'il suive, mais moi, non. Moi, je pense que si Joel Batts veut le poste, que ça intéresse d'être entraîneur chef à Montréal et Rémi Garde s'en va ailleurs revient dans les Europes. Moi, je trouve que Joel Batts.
On l'entend pas souvent parler, Joel Batts. C'est pas quelqu'un qui donne des entrevues.
C'est correct.
Visiblement, c'est pas quelqu'un qui ça l'intéresse. Être comme ça, au devant de la scène, je suis pas sûr que c'est.
Mais s'il y a une personne qui était en entrevue au KNFC, back in the days, au studio, avant qu'il y ait des microphones cool et des caméras beaucoup plus cool, c'était Wilfred Nancy, que lui a clairement des ambitions d'être entraîneur-chef. Déjà, il était encore à l'académie, il voulait intégrer dans le groupe pro éventuellement, il l'a fait. Mais être entraîneur-chef, il n'est pas contre ça. On l'avait parlé, puis c'est quelque chose qui l'intéresse en termes d'évolution de carrière, c'est quelque chose qu'il veut. Et c'est tant mieux, c'est normal.
Extrêmement étonné que Joey Saputo s'assoie dans ses plans à lui. Parce que oui, hein, breaking news, le prochain entraîneur de l'Impact de Montréal, ce sera pas Kevin Gilmour qui va le choisir.
Non.
Espérons même. Ça reste encore la responsabilité de Joey Saputo. C'est lui qui a les contacts. C'est lui qui a l'expérience. Non. Puis Kevin Gilmour, oui, il a le tag. Sur sa porte, c'est écrit président. Mais la branche technique... ça lui appartient pas. Donc, selon moi, Joey a déjà un carnet bien plein. Quand ça était pour Rémi Garde, il y avait déjà... même à Bologne, on l'a vu, là. Ça s'est retourné vers des entraîneurs qui avaient déjà été associés un peu à Montréal. Ça va tourner autour de ça. Ça pourrait éventuellement... Donadoni, il s'est pas trouvé de poste nulle part ailleurs.
Attention, Hilton, les Italiens et les rumeurs, attention.
Je dis pas que c'est dans les tuyaux. Mais ça pourrait bien.
Ça pourrait bien. Avant de conclure, je voudrais remercier tout le monde qui a posé des questions qu'on n'a pas pu répondre. Un client, Benoît Raymond, Bart Nuotis en partie, Crumpy Old Man, Antoine Sylvain Côté, Ludwig, Philippe Biquière, Normand Ouellette, Adi Raphaël, salut Adi, Nicolas Forger, Anthony Bellil, qu'on a répondu en partie à sa question. Donc désolé qu'on n'a pas pu avoir votre question en direct, mais on le fera. Danny Beauchard, Julien Tessier, Philippe Orden. Je pense qu'on a répondu à ces questions par rapport aux 7 points, qui est remplacé au Routy, mais tous ceux qui ont répondu, Danny Beauchard, Caron Claude, donc merci beaucoup de poser des questions. On n'a pas pu y répondre à tous, mais je pense qu'on a répondu en partie à vos questions, donc merci de prendre le temps. Et puis voilà. Ah oui, pour finir, Alain Lemay Maguire, Siri LNH, pour qui prendrez-vous LNH? Si le match de l'Impact face à New York était une série soporifique Netflix, ce serait. On y répondra une autre fois. Sur ce.
On va y réfléchir.
On va y réfléchir. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode 7, je pense, du Couscous Piri Piri. Moi, c'est Nilton. Moi, c'est Sofiane. Lui, c'est Nilton. Nous, c'est Couscous Piri Piri. Suivez-nous sur Twitter. C'est notre Nilton George, Sofiane Benzaza. Le CANFC, c'est CAN Football Club sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Supportez-nous sur Patreon pour le CANFC. supporte les CPP en nous écoutant, en partageant. Et merci encore à Spreaker pour être le sponsor technique, évidemment. Et surtout, merci à la Forge du Malte, la microbrasserie du 12e joueur. Merci Nilton et à la prochaine
ciao,
tout le monde.
Ciao, ciao. Hey, oui. Bon WrestleMania ce soir.
Ah, ok. Est-ce que c'est quoi, c'est Bret Hart? Est-ce que c'est Bret Hart contre Shawn Michaels? J'ai hâte.
Surprise, surprise.
Surprise.
On en parle à la prochaine épisode.
Épisode. Merci tout le monde. À la prochaine.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.